cette petite pause, nous reprenons tout de suite le fil du débat. Donc, si tu pouvais recadrer...
Bien volontiers, alors c'est plutôt une discussion qu'un débat, parce qu'on arrive à être vachement d'accord.
Oui, oui, c'est vrai, oui.
C'est...
Alors, oui, non, tu voulais poser une question, parce que j'avais aussi...
Fais l'avocat du diable, vas-y.
Non, c'était pas du tout pour faire l'avocat du diable, c'est... Alors, tous ces rôles du MJ, donc, que t'as bien défini, que je trouve très intéressant, qu'est-ce que t'en fais?
Ça annonce une vacherie.
Pas du tout. Comment ça marche dans des jeux... sans MJ ou alors dans des jeux où la narration est beaucoup plus partagée? Est-ce qu'il y a toujours cette répartition des tâches tu vois, parce que je pense à des trucs comme ce que tu disais par rapport au scénariste, forcément ça marche plus trop, mais il y a quand même cette notion de se faire plaisir.
Ben écoute, le premier élément de la réponse, c'est que les fonctions du MJ, quand il n'y a pas de MJ, elles n'existent pas. Quand le MJ est tournant, évidemment, ben, c'est les fonctions du MJ, elles sont attachées au poste de MJ, et si la fonction tourne, enfin si le statut de MJ tourne, les fonctions tournent aussi. Alors après, évidemment, si on veut faire des jeux plus narratifs, si on pratique des jeux plus narratifs, et on va répartir autrement son effort dans les différentes fonctions.
Voilà,
des jeux par exemple qui fonctionnent sans préparation, le poste de scénariste disparaît peu ou prou. Il reste juste le travail d'adaptation et un boulot qui est finalement pas un boulot de scénariste si on veut faire des comparaisons avec ce genre de métier-là. C'est plutôt un boulot de directeur d'écriture. Tous tes joueurs sont des scénaristes et toi, ton seul boulot, c'est de garder un peu de cohérence.
C'est toi qui as la Bible de la série, quoi.
D'une part, mais c'est aussi toi qui as la machine à coudre à fil blanc avec laquelle tu vas rassembler toute la mosaïque d'idées et d'histoires que vont te filer tes joueurs. Et effectivement, si, dans ces cas-là, à la limite, la notion de Bible, en tout cas le fait de bien maîtriser le contexte, va t'aider vachement, parce que le contexte, c'est pas juste un décor, c'est une route qui te guide un peu et qui te donne des directions narratives assez régulièrement. Si tu maîtrises pas mal le contexte, tu peux notamment... improviser ou en tout cas découvrir des liens parfois, si ton contexte il est bien cohérent, des liens vraiment forts et vraiment intéressants entre les différentes propositions des joueurs, parce que normalement on parle tous du même contexte, donc ça devrait s'emboîter pas trop mal. Donc je parle de la machine à coudre à fil blanc, parce que des fois c'est un peu ça qu'on fait, mais on peut obtenir
oui, parce que de toute façon il faut bien que tes intentions soient suffisamment visibles pour que pour emporter l'espèce d'adhésion tacite des autres à ce que tu apportes.
Oui, c'est vrai, même si des fois tu peux te laisser porter par une proposition sans savoir exactement où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce que le camarade en attend.
En fait, justement, c'est une histoire de présenter le plat.
Oui, mais tu peux te permettre d'aller, comment dirais-je, de faire des surprises à tes petits camarades. Tu vois, tu peux avoir un personnage, rien que l'influence narrative que te donne ton personnage, peut aussi comporter, alors on parlait des conséquences de nos actes, et, y compris de la mort, j'essaye de faire une...
un grand écart pour rattraper le truc.
Ça s'appelle ma machine à coudre à fil blanc, vient d'attaquer cette discussion.
Hey, tu pourrais être chroniqueur à Radio Rollist.
Donc en tout cas, il peut y avoir plein de conséquences, et ces conséquences, elles dépendent du contexte. Notamment quand on parle de la mort des personnages, ça dépend vachement du genre de jeu. Quand on joue dans un jeu épique, on devrait pas pouvoir mourir sauf dans une situation épique. J'ai essayé de jeter un anneau dans un volcan et puis j'ai glissé, je suis désolé chef. En tout cas, la mort doit être exceptionnelle, à moins que le contexte justifie qu'on meure de tout et de rien tout le temps.
Et puis le mot de mort en plus est large. Il y a la mort physique, il y a la mort politique, quoi, la mort sociale, on va dire. Il y a plein de morts et voilà, donc selon le jeu, on peut s'y prêter dans tous les cas.
Ah oui, et puis si on va vers le fantastique, il y a des tas d'états qui n'existent normalement pas dans la vraie vie, mais qui peuvent arriver de manière intéressante à des personnages. Bon, par exemple, possédé par un démon, je sais que ça arrive à Cobal de temps en temps, mais pour la plupart d'entre nous,
Il est plutôt sage en ce moment.
En tout cas, pour la plupart d'entre nous, on approche ça que lorsqu'on a un chat, en fait.
Ah oui, c'est ça.
Mais en réalité...
Ça va, il demande que des sacrifices de croquettes pour le moment.
C'est gentil de sa part, il n'est pas trop sanguinaire.
Non. Tu crois qu'ils sont passés où, Cyril et Yannick?
En fait, c'est ça le message cryptique qu'on a reçu de Yannick tout à l'heure, il essayait de dire « le chat me mange ».
Bref.
Mais donc, en tout cas, on peut amener tout un tas de conséquences, notamment avec le fantastique. Et on peut, évidemment, si le genre justifie, par exemple, si vous êtes dans un jeu d'horreur, amener vers de l'horreur davantage psychologique, les personnages et donc les joueurs derrière peuvent expérimenter des émotions a priori beaucoup moins fun pour les dîners en famille, l'impression de la perte d'identité, le fait que vous devenez dingue, vous voyez des trucs qui sont pas vraiment là mais vous êtes apparemment le seul qui se rend pas tout à fait compte, vous pouvez glisser moralement dans des territoires où vous pensiez jamais aller. Vous étiez une bande de pro-chevaliers prêts à défendre la veuve et l'orphelin, et puis c'est avéré que la veuve, elle était un peu sorcière sur les bords, et à un moment, vous êtes en train de lui monter un bûcher derrière sa ferme, et vous vous dites « Où est-ce qu'on a dérapé, les gars ?»
C'est un peu aussi mettre des défis aux joueurs.
C'est de sa faute, elle faisait le poids d'un canard.
c'est un peu mettre un défi aux joueurs, dans le sens où ils sont habitués à une routine quand t'es dans un jeu qui est installé, que tu joues depuis longtemps, que tu joues en campagne ou quoi que ce soit. Et par ces ressorts-là, d'une part, de changer un petit peu le rythme et sortir des sentiers battus, en leur proposant quelque chose qui reste un défi, qui les nourrit aussi, qui est plaisant, parce que, ah ouais, tiens, je vais toucher à quelque chose, je sais pas où il veut m'emmener, mais tu sauras naturellement vers quel joueur te tourner plutôt qu'un autre, pour lancer le morceau, et puis après proposer un autre truc à un autre, et naturellement, il aura plus de facilité, mais c'est vrai que c'est...
Je pense que c'est aussi effectivement une des fonctions à la fois de machiniste et d'animateur que d'être capable de pouvoir proposer du défi sur presque toutes les situations narratives qu'on amène. Ça reste quand même du jeu de rôle et après on a toutes les interprétations et les lectures qu'on veut. Mais moi j'ai tendance à l'interpréter comme ça doit quand même être vraiment du jeu. Et c'est plutôt... Alors c'est un grand débat sur est-ce que les situations de jeu ne nous empêchent pas de ressentir ? Auquel cas, est-ce que les situations narratives ne doivent pas se succéder aux situations ludiques et pas se mélanger ? Je suis plutôt, moi, d'avis de les mélanger, sachant qu'on peut doser de plein de manières. Un exemple que je prends assez régulièrement, c'est le fait que vous êtes accroché à une montagne, vous êtes en train d'essayer d'échapper à l'armée des ennemis qui passent derrière vous, et à ce moment-là, ils arrivent dans le défilé, ils regardent pas vers le haut. Plus vous restez longtemps accroché à la montagne, plus vous prenez le risque éventuellement de tomber ou de vous faire repérer, plus vous aurez d'informations sur l'armée ennemie. Est-ce que vous restez ou pas ? Et pendant ce temps-là, on vous décrit que vous commencez à avoir des crampes dans les doigts, que vous êtes en équilibre instable, est-ce que vous avez vraiment envie de rester là ? Et si machin il décroche, sachant que vous êtes encordé avec lui, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et quand on parlait de coffre à jouer, c'est aussi ça. Le machiniste et l'animateur ont un peu pour fonction de proposer des enjeux, des choses à jouer, des choses à faire, des choses à résoudre, ou des choses à s'approprier. À mes yeux, presque à chaque fois qu'il y a une situation narrative, elle mérite d'être un petit peu ludique. Ça peut être de manière très, très réduite. Vous me posez simplement la question aux joueurs. Est-ce que vous restez accroché à cette putain de montagne ? Est-ce que vous avez essayé de vous planquer davantage ? Mais si on vous voit plus, bah, vous verrez plus non plus, vous n'aurez pas d'infos. Mais aussi, plus vous regardez, plus vous aurez peur. Alors, est-ce que ça ramène pas de l'émotion d'une autre manière, etc., quoi.
Je pense que c'est il faut quoi, tout le monde se pose pas la question. Tout le monde n'a pas mené la réflexion où tu l'as poussée. Et les MJ, j'imagine, se posent pas la question à chaque minute quand ils sont derrière leur écran pour se dire attends là, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que c'est d'abord d'une part c'est épuisant et que c'est quelque chose que tu peux pas construire forcément dans ton rôle de scénariste, tu peux pas le prévoir à l'avance.
Sébastien hoche la tête. Je vous signale parce que ça ne
oui.
s'entend pas.
Parce que ça nécessite quand même beaucoup d'énergie. Beaucoup de soit de bouteilles, soit de préparation ou d'expérience sur des choses passées, et donc de s'être posé la question, d'avoir réfléchi au sujet avant. D'où l'intérêt de ce débat, quoi, de ce débat, c'est pas vraiment un débat, mais de la réflexion que t'as menée, que t'exposes ici, qui est très intéressante, même si malheureusement on n'est pas opposé à ce que tu dis.
On aurait voulu pouvoir s'engueuler tout
non,
la soirée.
Voilà, c'est triste. Hein. Mais
en fait, il fait tellement chaud.
Tu nous nourris. Non, mais il nous nourrit en fait.
Hein. Il fait tellement chaud qu'on peut pas s'engueuler.
Ça marche pas pour la Palestine, mais ici, ça annule tout conflit.
T'as 38 ou 40, là, ça devient difficile.
C'est assez brutal. Mais donc, en tout cas. Je souriais notamment aussi parce que tu nous ramènes d'une autre idée que je vais aborder dans une petite seconde parce que je voudrais finir avec une micro-fonction qui est vachement débattue, qui est est-ce que le MJ doit être un arbitre ? Alors, il y a des pour, il y a des contre, et si vous voulez du conflit, à mon avis, celle-là, elle doit pouvoir nous occuper un moment. Par exemple, Côme, qu'en penses-tu ?
Bah, qu'est-ce que t'entends exactement par arbitre ? Déjà, peut-être définis un peu ta position.
un arbitre, par exemple au football, c'est le mec qui te dit ce que t'as le droit de faire, t'as le droit de faire, et notamment qui t'empêche de faire les trucs que t'es pas censé faire.
Parce que après, au niveau, si on applique ça au jeu de rôle, pour moi déjà, il y a deux choses différentes. Il y a l'arbitre par rapport aux règles, et l'arbitre par rapport à l'univers, le scénario.
Par rapport à la cohérence de l'univers.
Par rapport à la cohérence de tout ce qui est en train de se passer. Donc au niveau des règles, j'ai envie de dire que oui, pour moi, le MJ est un arbitre, même si je suis loin d'être un défenseur de l'application des règles à la lettre. Parce qu'il y a toujours des moments où ça marche pas, ou des moments où tu te rends compte que c'est le fameux truc où tu vois que là, je sais pas, t'es en train de décimer tes joueurs parce que tu fais des super bons résultats au dé, c'est plus intéressant d'avoir un résultat un peu entre les deux, c'est plus intéressant que là ils réussissent qu'ils échouent, bon là tu peux aussi tricher, bon en même temps si t'es l'arbitre, quand tu triches ça se voit pas. Mais après au niveau de la cohérence de l'univers, oui effectivement là t'as plusieurs approches, soit c'est ce qu'on en parlait un peu hors antenne. L'idée, c'est est-ce que tu mets ton groupe et ton scénario sur des rails en disant « Non, mais attendez, moi, j'avais prévu que dans le scénario, vous alliez là, donc je vais tout faire pour vous y amener, même si à un moment, il va falloir un peu vous donner des coups de fouet pour que vous y alliez, même si ça va se ressentir, ça va être un peu artificiel, etc. » Ou alors, option plus intéressante, mais effectivement, il faut peut-être avoir un peu plus de bouteille, de dire « Ah bon, vous voulez pas faire le voyage en train que j'avais prévu, que j'avais décrit en 15 pages avec toutes les étapes, je vous avais préparé un PowerPoint des paysages qu'on voyait au fil du voyage. Vous préférez rester en ville et vous mettre à des intrigues politiques, on va faire ça. Et puis, entre deux séances, je réorienterai mon jeu par là. »
Toi, tu sais vraiment nous faire rêver.
tu as compris laquelle des deux options je favorise. Après, ça demande à la fois plus d'expérience. Ça, c'est pas forcément évident parce que tu parlais du plaisir du MJ. Bon, là, c'est quand même une part assez importante. Dire, moi, ça me faisait vraiment kiffer de faire des PowerPoints. Vous voulez pas, j'y perds un peu de plaisir. Mais en même temps, si je le fais, c'est vous qui allez vous faire chier. Enfin, il y a toujours un équilibre entre les deux, quoi.
Oui. Alors après, il y a aussi des notions. Tu as lâché le mot maudit, et donc maintenant tu vas avoir droit à la question qui tue. Et c'est quoi la triche en jeu de rôle ?
Pour moi, j'attends que Mickaël.
Excuse-moi, je suis désolé.
Après, je le définissais comme ça, mais personnellement, pour moi, il y a pas de triche en jeu de rôle parce que. C'est plutôt une notion de, comment tu pourrais appeler ça, mais d'entente ou d'accord entre les joueurs et l'MJ. Oui, c'est le fameux accord social, c'est de dire, j'ai bien compris que vous vouliez que je vous raconte un peu une histoire comme ça, vous avez bien compris que moi, je voulais plutôt vous faire ressentir des choses comme ça. À partir de là, les règles, c'est un outil, mais il faut jamais être limité par son outil, quoi.
C'est marrant, pour moi le rôle d'arbitre, moi c'est un rôle que j'estime pas exister, de mon point de vue. Parce que pour moi le point de départ c'est l'univers et les règles, et c'est le point de départ. Donc c'est le cadre dans lequel on fonctionne. Mais ce cadre, si on doit l'exposer derrière, moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire, et c'est ce qui va être vécu. Donc forcément les joueurs, s'ils me proposent de faire des choses qui sont pas prévues, qui sont peut-être anathèmes dans le background ou qui sont absolument pas possibles par les règles, je vais trouver le ressort qui va bien, et peut-être que je le trouverai avec les joueurs, mais je m'en fous. Et pour moi, il n'y a pas de triche. Pourquoi ? Parce que le but du jeu, c'est de faire une bonne histoire et de s'amuser. Donc, s'il faut qu'on contourne tout, on contourne tout et je m'en fous. Après, c'est... Voilà, donc... c'est pour ça que pour moi, le rôle d'arbitre, c'est pas un rôle d'arbitre, c'est le rôle d'animateur pour moi, et c'est tout. Donc le cadre, les règles et l'univers, c'est le point de départ, et si on doit trop reconstruire, comme le disait si bien dans les premiers bouquins, vous en faites ce que vous voulez, vous nous l'avez filé, on en fait ce qu'on veut, et si on va casser votre jouet, on va le casser, on va le tuner, on va le modifier, on va en faire ce qu'on veut, mais on le fait ensemble. Par contre, le MJ peut-être qui va essayer de donner des directions, mais s'il voit que les directions qu'il donne, elles ne fonctionnent pas, le but du jeu, c'est quand même de voir, de donner la marge de manœuvre aux joueurs. Et comme par hasard, ils vont trouver toujours le moyen de nous apporter des trucs qui vont nous faire délirer, auxquels on ne s'attendait pas parce qu'on n'est qu'un seul cerveau et qui sont 4 ou 5. Donc ils auront 5 fois plus d'idées que nous, ou 10 fois plus, ou 20 fois plus, parce qu'il y a, il y a les individus, et puis après il y a le mélange des individus. Donc forcément, et à partir de là, bah, on s'éclate, et on s'éclate encore plus. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'un scénar écrit de A à Z dans le rôle de scénariste ne fonctionne pas. Il faut une ligne rouge, et puis cette ligne rouge, et bah, elle deviendra verte, et puis après elle deviendra orange, je ne sais pas quoi comme couleur. Elle évoluera au fur et à mesure où l'aventure prendra ou pas, où la sauce prendra. Faut que la sauce prenne, voilà.
En fait, je suis totalement d'accord avec toi, donc encore une fois, il n'y a pas de débat. C'est très décevant.
Alors, c'est vraiment moi, il s'avère que je suis pas tout à fait d'accord ni avec l'un ni avec l'autre.
Ah, super.
Ça va être l'instant débat. Alors, en l'occurrence...
Le débat.
Je vais d'abord commencer par une position qui va peut-être vous paraître un peu bizarre. Pour moi, en jeu de rôle, il y a de la triche, mais il n'y a pas d'arbitre. En l'occurrence, il y a de la triche, mais on ne devrait pas avoir besoin d'arbitre. À partir du moment où on décide qu'on va jouer ensemble, pour pouvoir jouer vraiment ensemble, on a besoin tous de connaître les mêmes règles et d'appliquer les mêmes règles. Si on décide qu'il y a une règle qui fait chier, parce que par exemple, il y a une espèce de suicidaire qui a décidé qu'il allait lancer une torpille à Polaris, on reviendra toujours sur la torpille de Polaris.
Oui, parce que personne ne saura comment calculer ce que ça fait.
Et qu'on décide que ça se fait en un seul jet d'un dé de 6, et que si ça fait 6, ça fait boum au bon endroit et qu'on est tous contents. Si on le décide ensemble, il n'y a pas de problème, on respecte tous les mêmes règles. Mais par contre, ce qui est super important, spécialement dans des jeux assez ludiques, que ce soit parce que le jeu implique un certain nombre de notions très tactiques ou de gestion de ton personnage sur la durée, etc., ça peut être extrêmement perturbant que de faire sauter une règle sans avoir discuté la chose avec les joueurs. Notamment parce que si on admet la notion que j'ai lancée tout à l'heure, d'être de temps en temps véritablement l'adversaire de ces joueurs, spécialement quand on est contre eux, à mes yeux, il faut montrer ses cartes, poser ses dés sur la table, et faire en sorte que tout le monde soit bien clair dans sa tête sur comment on joue, à quoi on joue, et donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer le méchant à ce moment-là. Et éventuellement, on peut même en profiter pour faire de la démonstration. Au passage, il m'arrive régulièrement, quand je mène des combats, de faire en sorte que le méchant d'en face utilise la petite option tactique qu'elle est rigolote et qui fait toujours chier les joueurs, juste pour leur rappeler qu'elle est là, qu'ils peuvent lui aussi lui retourner sur la gueule. Mais plus généralement, mon avis, c'est qu'on peut tricher en jeu de rôle comme on peut tricher à tous les jeux. On peut mentir sur ses jets de dés, on peut oublier de compter les points de vie qu'on vient de perdre, etc. C'est juste que quand on fait ça, comme à tous les jeux, on fait chier. Et s'il n'y a pas besoin d'arbitre, c'est parce qu'à mes yeux, normalement, l'arbitre implique un échec commun à la table, c'est qu'on n'a pas réussi à jouer vraiment ensemble. Il y en a un qui, un troupeau, qui ont décidé qu'on n'allait pas faire ça parce que ça ne les arrangeait pas. Et à mes yeux, notamment quand le MJ décide de biaiser un jet de dés, pour que ça parte pas dans la direction qui l'arrange pas, ça vaut vraiment le coup qu'ils prennent le temps de vérifier avec les joueurs si, par hasard, eux, ça les intéresserait pas. Moi, j'ai déjà joué, il y a quelques temps, une partie de Pathfinder, où le truc le plus intéressant qui nous soit arrivé, c'est qu'on est tombé sur des trolls alors qu'on était niveau 1, on s'est fait démonter nos mouilles à quelque chose de formidable, mais au moins, il y a eu de l'angoisse, quand on a vite compris qu'on était merdé, et qu'on allait se faire dépouiller, on a cherché à s'enfuir, plus ou moins efficacement, on a eu vraiment peur, il y a eu de l'intensité, et évidemment, ça nécessite que, par contre, quand on est... en tant que MJ, qu'on assure la fonction de machiniste, on prévoit tout ça. On prévoit la difficulté. Et qu'éventuellement, on prévoit des outils pour la retailler sur l'instant, parce qu'on est à peu près sûr qu'il va se passer des tas de choses. Tous les jeux qui gèrent de l'attrition, par exemple, il faut savoir que vers la fin du scénar, les PJ sont dans un sale état. Et que si on leur donne pas l'occasion de se retaper, ça va être difficile. Mais c'est là aussi qu'on revient à notre notion du coffre à jouer. Si vous commencez à distribuer des potions de soins et que vous les mettez n'importe où dans votre donjon et qu'il n'y a qu'à ouvrir un coffre pour les récupérer, c'est peut-être pas très ludique. Si par contre vous avez réussi à amener le fait qu'il n'y ait que l'alchimiste du village qui puisse soigner les PJ et qu'en plus c'est pas de chance, c'est un sale con raciste et que l'homme lézard dans votre groupe il commence à en avoir vraiment marre de ses remarques... Il y a plein de choses qui peuvent se passer avec ça et on peut refaire un enjeu ludique assez rapidement avec des choses qui sont apparemment que de la technique et qui sont que de la règle. En tout cas, de mon point de vue, une règle, si elle est un peu bien faite ou en tout cas bien utilisée, parce qu'on peut quand même faire des choses plutôt correctes avec des règles pas terribles, simplement parce qu'on les utilise au bon moment, il y a moyen de encore une fois créer du défi pratiquement à chaque fois que ça pourrait être intéressant. On peut même lui donner des proportions très variables en fonction du moment du scénar. C'est vrai que si la question essentielle, c'est de savoir si vous avez capturé l'espion du grand esprit, vous emmerdez avec est-ce que vous avez assez de pièces pour payer le parking, c'est pas super drôle. Mais sauf si, évidemment, encore une fois, il y a un enjeu particulier. L'espion du grand esprit est en train de se tirer en voiture. Vous êtes coincé derrière la barre à dire au guichetier « Non mais écoutez, on payera la prochaine fois, vous voyez bien qui se tire. » Non monsieur, on peut finalement exploiter à peu près n'importe quoi. Ça dépend de... Alors, ça peut être une question d'expérience, parce qu'on l'a beaucoup évoqué, en tout cas... Comme est plusieurs fois revenu sur le fait qu'il fallait avoir un peu de bouteille, etc. C'est aussi ça un peu la notion générale des fonctions du MJ. Enfin, en tout cas, l'intérêt pour moi de la chose, c'est de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait. C'est que dans plein d'autres domaines, on a parlé de l'analyse de la pratique pour savoir comment est-ce qu'on pourrait mieux le faire si on a envie de mieux le faire. Je tiens à souligner qu'on ne peut parfaitement pas théoriser et jouer bien. En tout cas, largement s'amuser, et je vois pas quel autre critère on pourrait avoir sur est-ce que le jeu était bon. Et je n'oblige personne, je ne recommande qu'à peine. Il me semble en tout cas que par contre on peut en tirer des trucs fun. Et le jeu de rôle est une notion encore assez récente en réalité. On sait pas beaucoup de choses sur notre loisir. On découvre et on explore encore vachement ce qu'on fait. Et il me semble que les petites interventions théoriques ou la réflexion sur la pratique, ça sert simplement à établir un peu la carte de ce qu'on est en train d'explorer, éventuellement de planter des petits drapeaux ou de repérer depuis certaines hauteurs conceptuelles la prochaine direction où on a envie d'aller explorer.
Ce que je trouve intéressant dans tout ça, en fait, c'est vrai que, comme tu le disais, c'est pas possible pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le besoin ou l'envie de réfléchir, d'analyser la pratique. C'est super intéressant de tenir sous la main là et avec cette chaleur assommante quelqu'un qui l'a fait, mais il y en a quelques-uns qui existent fort heureusement, pour partager un petit peu sa sapience, hein, parce qu'on parle de Néphilim il n'y a pas longtemps.
Comment il me flatte.
Ouais, voilà. Moi je trouve ça vraiment super, en tout cas c'est très intéressant.
Je crois que tu vas pécho, Seb.
Et alors, pour revenir vers le cerveau, pardon. Moi j'avais une question, alors c'est peut-être une ouverture vers un autre débat, je sais pas, à moins que.
Parc jeune et faible, je t'écoute.
Alors, je vais me déshabiller dans la pièce à côté, c'est ça ?
Bah non, reste en douille.
Alors, non, mais plus sérieusement, donc, bon, moi, il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est comment tu poses les fonctions du joueur ? Parce que toutes ces fonctions du MJ, c'est des choses qui sont très intéressantes, très bien, mais si en face, t'as des joueurs avec qui ça marche pas ? Un groupe de joueurs, parce que, bon, là, par exemple, quand tu parles de, bon, bah, faut s'y répondre aux envies des joueurs, faut se faire plaisir, etc. Ok, ça marche quand tu as un groupe que tu connais depuis longtemps, etc. Comment
avec
ça marche
avec des joueurs proactifs.
Voilà, t'arrives dans une convention, il fait super chaud, le joueur n'a pas envie, quoi. Est-ce qu'il y a des fonctions du joueur, est-ce qu'il y a des rôles que les joueurs doivent remplir pour qu'une partie se passe bien, ou est-ce que eux, c'est juste j'arrive et bon, c'est bien sûr une fausse question puisque je me doute un peu de la réponse, mais.
Alors, je vais préciser 2-3 détails. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait des fonctions qu'il faille mettre en œuvre, sinon on est un mauvais joueur. À mon avis, pour s'amuser vraiment autour d'une table de jeu et pouvoir partager notamment la passation de pouvoir ou le partage des idées avec ses joueurs, il faut simplement avoir à peu près le même niveau d'engagement qu'eux, ou en tout cas un truc proportionnel, et partager des envies. Et encore, on est là pour se faire plaisir, et le plus efficace, c'est encore de trouver des gens qui ont un peu la même notion de se faire plaisir. Il m'arrive de temps en temps de jouer à Dungeon World, notamment avec l'ami Cobal, et nous nous amusons à jouer des gros crétins, et c'est très drôle. Évidemment, à ce moment-là, il ne faut pas attendre de nous qu'on propose des vraies solutions quand il y a un problème, on va proposer des bêtises.
Oh non, c'est faux. Enfin, pas du tout.
Ok, on demandera au MJ ce qu'il en pense. En tout cas... on n'est pas obligé de s'engager vachement, on n'est pas obligé de faire du roleplay tout le temps, on est en fait obligé de rien. Pour moi, le seul critère, c'est qu'on agisse à un niveau qui intéresse nos petits camarades. Mmh. Notamment parce qu'il y a un phénomène qui est un peu particulier. Alors, ça peut être une fonction, ça se discute en tout cas des joueurs, c'est en tout cas une situation très récurrente chez les joueurs de jeux de rôle, c'est qu'il y a un moment très long autour d'une table. Par exemple, s'il y a tout de suite, nous jouions à quelque chose et que nous avions un MJ, on resterait à 3 joueurs. Ça veut dire que chacun d'entre nous va passer les 2/3 de la séance à pas jouer. Et il sera spectateur.
Bah, c'est comme une émission de radio rôliste finalement.
Oui, en tout cas, il y a un peu cet échange-là, le fait que on s'écoute les uns les autres pour se faire découvrir des trucs. Et notamment, je ne sais pas si on peut considérer que c'est une vraie responsabilité des joueurs, mais c'est vachement agréable quand ils le font. Quand vous êtes en train de jouer, vous, demandez-vous si c'est cool pour le public, pour les potes qui sont autour de la table et qui vous regardent, et qui pendant un moment ne vont avoir que vous regarder à faire. Et si c'est amusant, ce sera déjà pas mal tant qu'ils sont spectateurs. Si en plus, vous assumez vous aussi un peu de rôle d'animateur et que vous allez tendre la main à votre petit camarade pour qu'il vienne jouer dans votre scène, c'est tout de suite carrément plus agréable. Si en plus vous commencez à vous raconter des histoires entre vous, que vous allez les bidouiller dans la cuisine et que vous revenez en riant sous cap à la table du MJ pour lui annoncer ce que vous avez inventé, là aussi vous partagez des trucs. Et tu vois, je sais pas s'il y a des fonctions obligatoires, mais... parce qu'on n'a pas le même devoir de gestion, si tu veux. Mais il y a des choses qu'on peut faire, en tout cas. Et déjà, les fonctions du MJ, je ne les considère pas comme obligatoires. On a commencé par dire, fonction scénaristique, c'est un peu optionnel, vous n'êtes pas obligé. Et c'est vraiment ce qui t'amène du plaisir de jeu, en réalité.
En fait, je te posais aussi cette question, donc qui est effectivement un peu une fausse question, parce que j'ai l'impression qu'on réfléchit beaucoup, en tant que MJ, on réfléchit souvent sur bah voilà, qu'est-ce qui fait de moi un bon MJ, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant, etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'en tant que joueur, on se pose moins la question de
savoir si on est un bon joueur.
Ouais, de tout ce que tu viens de détailler, est-ce que je suis un bon joueur, est-ce que ce que je fais intéresse le MJ, intéresse les autres joueurs, etc. Donc c'est un bon rappel de se dire que c'est quand même des choses intéressantes.
De ta part, de responsabilité dans la partie, simplement.
Mais même si les joueurs sont mauvais dans l'absolu, le fait d'avoir une émulation et d'être 5, t'en sortiras quand même toujours quelque chose de positif, parce que la connerie que va dire machin de gauche et la connerie que va dire machin de droite va pousser le troisième mec à faire non les gars, là vous faites n'importe quoi, c'est ça qu'il faut faire.
Ou dire une troisième connerie.
Ou dire une troisième connerie, mais alors le quatrième va réagir. Il va se passer des choses, parce que forcément, si tout part en vrille et qu'il y en aura toujours au moins un qui va te sortir quelque chose, qui va peut-être sortir les gens de la panade. Mais c'est beaucoup plus facile, parce qu'à la limite, en termes d'énergie dégagée, voilà, ils sont 5, t'es tout seul, toi tu dois être tout le temps à fond d'énergie et être prêt à réagir. T'entends, t'es sur le mode écoute et rebondir, évidemment, mais ça te demande aussi de l'énergie de les écouter et de rebondir sur ce qu'ils font. Alors que les joueurs, eux, voilà. Donc je pense que c'est aussi peut-être pour ça. Alors je sais pas, c'est toi qui vas nous donner la réponse, parce que la question s'adresse forcément à toi. Pourquoi du coup t'as plus analysé le rôle du MJ plutôt que le rôle du joueur, si des rôles existent pour le joueur,
J'ai davantage analysé le rôle du MJ parce que d'abord c'est le rôle qui me revient à moi le plus souvent. Donc ça c'est le classique. C'est pas que pour moi le jeu de rôle c'est être MJ, c'est juste que comme c'est ce que je fais le plus souvent, c'est un peu le truc que j'aimerais améliorer en premier. Déjà je voudrais préciser que on n'est pas obligé de vouloir s'améliorer pour faire du jeu de rôle. Je pense qu'on peut encore une fois être un MJ qui partage du plaisir avec des gens. En y allant un peu en vrac, en préparant pas ses scénars, en faisant ce qui nous amuse sur l'instant. Encore une fois, pour peu qu'on se marre, puis on peut se faire des parties apéritifs. Il n'y a pas de honte à pas avoir hyper envie de se prendre la tête avec de la théorie, ou pas avoir envie de progresser, ou pas avoir envie de mettre les efforts que peuvent nécessiter le fait de progresser en tant que MJ. On peut avoir envie de le faire en tant que joueur ou pas non plus, c'est vraiment une question de pratique personnelle. Et est-ce que, en gros, la manière dont vous jouez correspond à vos petits camarades? Est-ce que tout le monde s'amuse ensemble? Au-delà de ça, pour répondre à la question sur les fonctions du joueur, moi en tout cas, on retrouve à mes yeux, de manière un peu parcellaire, les mêmes fonctions du MJ. Vous êtes le scénariste de votre personnage. Et théoriquement, vous avez commencé avant la première partie à être le scénariste de votre personnage, parce que vous avez écrit votre personnage. Donc, vous lui avez régulièrement inventé une petite histoire, des raisons d'être là. Vous avez, vous aussi, fabriqué des tas de leviers, des tas de manettes pour que le MJ puisse tirer dessus et faire des trucs rigolos avec votre personnage. Il peut faire revenir son grand-père mort. Il peut vous faire hériter d'un château aux confins du royaume. Il peut vous faire découvrir un super pouvoir que vous ne connaissiez pas. Il peut vous faire peur. Au passage, tant qu'on en est à faire peur, si vous me permettez de dire un truc vraiment horrible dans un podcast, je sais que c'est horrible et que ça terrifie la plupart des gens à qui je le dis.
Oh là, vas-y.
Voilà. La question de savoir si on est un bon MJ ou pas, en ce que de mon expérience, dans mon métier à moi, où je fais quand même pas mal de créa, il y a beaucoup de gens qui se demandent tout le temps s'ils sont un bon dessinateur, un bon graphiste, un bon ceci, un bon cela. L'horreur glauque, c'est vous saurez jamais. Vous pouvez tout de suite.
Oh mon Dieu!
Vous pouvez tout de suite arrêter de vous prendre la tête. Vous pouvez faire ça pendant, et à mon avis, pour le jeu de rôle aussi, pratiquer pendant 50 ans et pas savoir. Parce qu'il n'y a pas vraiment de critère objectif. Il y a par contre un critère subjectif partagé qui est-ce que je me marre avec les gens avec qui je joue?
Et est-ce qu'eux se marrent?
Oui, qu'on se marre ensemble.
C'était tout seul à te marrer après avoir massacré toute la tablée. Tu sais. Ah, on s'est bien marré. Allez, à la semaine prochaine. Bonne création de perso.
Et la vraie question, c'est que s'ils reviennent, peut-être qu'ils aiment ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai joué avec Toulouse. Hein.
Oui, bien sûr. C'est ça.
Dans cet épisode, ton personnage va être violé par des profonds. Dans cet épisode, ton personnage va perdre l'esprit. Dans cet épisode, ton personnage va perdre sa famille. Vivement la semaine prochaine. Mais on
ça,
peut...
c'est une vie de perso qui est quand même assez longue pour un perso de Cthulhu, je trouve.
Je trouve aussi, ouais.
Normalement, c'est tout dans le même épisode. Ouais.
Mais il avait pipé son personnage. Il avait arrangé le truc avec PMJ parce qu'il est revenu à vachement de scénar. Moi, je pense qu'il y a, collusion. C'était la... C'était sa copine qui maîtrisait, je suis sûr.
Donc en tout cas, en tant que joueur, il me semble qu'on a un peu cette fonction de scénariste, et que notamment quand on écrit un BG, c'est pour qu'il serve en jeu. Alors qu'on écrit un historique pour un perso, en gros, bon, c'est toujours le même principe, hein. Si vous inventez une petite sœur, vous venez de lui peindre une cible dans le dos pour que le MJ puisse la faire enlever par les méchants, ou éventuellement qu'on fasse des trucs peut-être plus matures et moins clichés, genre, régulièrement, vous rentrez de vos missions couverts de sang à minuit et demi, et votre petite sœur vous demande « qu'est-ce que tu fais debout ?» Il y a plein de possibilités, ce qui va en plus nous donner d'autres défis, d'autres enjeux, ce qu'on arrive à maintenir la normalité, on parlait un peu de la normalité pendant la pause. En tout cas, il y a cette fonction scénaristique du joueur pour son propre perso et aussi pour raconter des histoires à ses petits camarades pendant tout le temps où eux seront spectateurs. En tout cas, en gros, l'idée, c'est si vous créez un perso et que vous avez l'intention d'échanger un peu de plaisir avec vos petits camarades, essayez de créer un perso qu'ils auront plaisir à voir évoluer pendant les moments où la grande majorité de la partie où c'est pas eux qui jouent. Il y a clairement à mes yeux un petit aspect de machiniste qui est ça rend vachement service, mais c'est toujours pas obligatoire, si les joueurs sont capables de gérer leur perso. Et notamment de faire en sorte que les aspects techniques soient à leur tour, en tout cas les aspects techniques qui ne les concernent que, votre livre de sort, vos points de vie, etc., relativement transparents pour les autres, mais éventuellement, c'est là qu'on va récupérer un peu de fonction narrative, décrit pour les copains. Je pense que c'est plus important dans une partie de jeu de rôle, en tout cas plus intéressant, mais encore une fois, j'oblige personne, de dire je me tiens la poitrine, je pisse le sang et je veux surtout pas qu'on touche à cette flèche, que de dire oh merde, putain, j'ai perdu 8 points de vie, quoi. Ah. Donc là, c'est encore un petit peu de boulot de narration. Et puis, y a quand même une petite fonction d'animation, c'est que si on est tous adultes autour de la table, et qu'on peut même se faire suffisamment confiance pour qu'il n'y ait pas vraiment besoin d'arbitre, parce qu'on respecte les mêmes règles, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va s'amuser, on peut aussi confier des petits boulots d'animateurs à certains de ces joueurs. Moi, j'ai régulièrement des joueurs qui sont chargés de servir de mentor aux nouveaux pendant quelques parties.
D'incarner un PNJ dans une scène où ils sont pas là.
Par exemple, filer des coups de main à leur ami ou MJ, notamment en bidouillant des trucs avec lui avant les séances. Parce que ce serait vachement sympa si ton perso qui a un peu tendance à péter les plombs, il pouvait péter les plombs cette fois-ci au moment où vous serez dans la cantina. Ah, je te ferai signe, c'est ouais. Ça.
Quand tu entends cette phrase,
voilà, tout
à fait.
Pendant
tout un solo.
Très joli coup.
Tout à fait, je dois dire que c'est assez impressionnant. Je m'en remets doucement là. C'était pas.
C'est bien. Mon talent d'animateur.
Classe. Et à la limite, effectivement, si on a des joueurs un peu créatifs, dans leur boulot d'animateur, si vous savez faire des voix rigolotes, ou si vous savez dessiner un peu, ou si vous êtes capable de prendre des notes et de les redistribuer à vos camarades, vous pouvez aussi faire un boulot d'animateur qui participe au plaisir de tout le monde. J'ai souvent eu à ma table des joueurs qui assuraient le secrétariat en prenant des notes, notamment éventuellement, par exemple, dans les scénarios d'enquête, en établissant des fiches sur les différentes personnes qu'il rencontre, pour éviter de dire à la fin, mais si, vous savez, le mec avec la moustache, eh ben, c'est lui le tueur. Mais lequel avec la moustache? Il n'était pas dentiste, mais un truc comme ça, quoi. Ou aubergiste. Enfin, c'est pareil.
Ou assureur, enfin.
Et en plus,
il était louche, quoi.
En plus, ce genre de choses, comme tu disais tout à l'heure, ça peut très bien être motivé par des pecs ou des trucs à la, un peu. Des mécaniques qui poussent à faire ça, quoi.
Oui, en tout cas, qui incite.
Oui, c'est ça. Oui, qui incite.
J'aime pas trop l'idée de pousser les joueurs,
oui,
mais c'est
non,
vrai
non,
que
c'est
bon.
C'est un mauvais terme, mais.
C'est pas forcément un mauvais terme, c'est juste. Le concept peut être un peu gênant, parce qu'il y a un petit côté autoritaire, machin. Alors, bon, des fois, c'est ça qu'on fait quand même. Notamment quand je dis l'animateur, il fait aussi le boulot de chien de berger, il va récupérer les petits moutons qui sont égarés. Bon, des fois, on leur mordille un peu les mollets, faut admettre. C'est juste que là encore, faut on essaye de le faire dans avec le degré et avec l'autorité juste nécessaire pour les remettre dans une direction intéressante.
Ouais.
S'il s'avère que le petit mouton il a découvert un truc vachement intéressant dans la forêt et qui vient chuchoter aux autres, en fait il y avait un loup, on peut encore faire pas mal de trucs, quoi. L'idée étant vraiment effectivement de rebondir le plus possible et de faire en sorte que. Alors c'est pas si tout le monde fait son boulot, parce qu'encore une fois je ne pense pas que ce soit un boulot. Mais si tout le monde s'investit au même niveau, et parfois dans les mêmes choses, c'est-à-dire dans une table où on aime le roleplay, si tout le monde fait un peu l'effort du roleplay, il y a des chances que tout le monde s'amuse vraiment plus fort et qu'il y ait non seulement un effet d'entraînement et d'émulation, mais aussi un effet de construction, c'est-à-dire qu'on peut commencer à s'appuyer sur ce que les camarades ont fait. On peut commencer à profiter des principes qu'on a mis en place dans les parties précédentes. On peut... Moi, j'ai en tout cas le plaisir et le privilège d'avoir des joueurs qui fabriquent des bouts d'histoire entièrement sans moi, presque. Et à un moment, ils me préviennent. Mais, ou qui passent des commandes. Franchement, on avait dit qu'il y aurait ça dans la campagne. Ça fait 3 scénars, on les a pas encore vus. Quand est-ce qu'ils arrivent? Éventuellement, qui filent un coup de main pour qu'ils arrivent.
Il y a de bons joueurs.
Il les a bien dressés.
Ouais, ça laisse rêver.
Et ils l'ont bien dressé eux aussi.
Mais alors d'abord, ça sélectionne les bons joueurs. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation du type extrêmement sympathique qui a écrit Dirty MJ.
Ouais.
John Wick.
C'est bien ça. Ouais. Je te remercie. C'est John Wick qui, avec son style inimitable, avait fait une très brève émission sur. Oui, mais toutes tes théories, elles marchent que si tu joues avec des bons joueurs. Réponse, pourquoi est-ce que vous jouez avec des mauvais? Fin de l'émission.
Non,
si tu veux... en fait, tout ce qu'on raconte, ça marche si tu joues avec des gens qui aiment ça aussi. Et même tuer des gobelins à la chaîne en lançant des déduits de plus 10, ça marche qu'avec les gens qui ont envie de le faire aussi, quoi. Et donc, je sais pas si c'est une question d'expérience que de cohésion. De la tablée, donc ouais. MJ et joueur, sur les mêmes objectifs. Des fois, honnêtement, je crache pas sur un donjon bête où il n'y aura pas trop d'émotions, mais où on va compter ses flèches et défoncer des portes et calculer les distances de tir, ça peut être fun aussi, quoi. Simplement, il faut le faire avec des gens comme ça.
Bien.
Je passe.
Eh bien, c'était le professeur Delphino du Collège de France.
Sera en tournée.
Dans sa chaire de jeu de rôlogie.
Alors, puisque vous me flattez depuis tout à l'heure et qu'on a fait beaucoup d'allusions sexuelles, est-ce qu'il faut que je m'attende à un truc spécial sur la fin, là?
C'est pendant le générique de fin.
Non, en fait, le truc, c'est que c'est la deuxième fois que tu viens. Vu que tu avais été interviewé une fois, je pense que tu vas être forcé de revenir. Non, mais j'ai trouvé ça super intéressant.
Ouais.
Et, comme d'ailleurs l'interview... que Cobal avait fait avec Pogo et toi. J'avais trouvé ça très très intéressant et ça a amené à se poser plein de questions qu'on se pose pas forcément à la base, donc voilà. Après on a essayé de faire les supports pour te laisser le temps de manger, de boire, forcément, donc dire n'importe quoi, mais parce qu'il marche en circuit fermé, c'est pratique.
Et en plus, il a une voix presque aussi suave que Yannick.
Exactement, ouais.
Mais ça, on s'est entraîné à la même école, en fait. Il y a des cours de voix suave, et ça demande de la préparation, par contre.
Tu pourrais faire Minitel Rose.
Oh oui.
Je propose qu'on enchaîne.
Oui. Je vais essayer de mettre encore plus de souffle.
Pardonnez-nous, il fait vraiment chaud.
Ouais, non, là, on est au-delà des 38 degrés, donc là, ça commence à devenir compliqué.
Exactement. Donc, Oui, ma foi, on a un peu fait le tour de tout ce que nous avions raconté. Voyons voir.
Tu avais une troisième partie à l'origine, il y a fort longtemps,
Oui,
dans une
c'est
galaxie très lointaine.
possible. Oui, en fait, j'ai deux trois bricoles à raconter. Et
Ben
vous,
vas-y.
tiens, on va faire un petit tour de table. Tiens, il y a un truc que je voulais savoir. Voilà, c'est l'été, vous êtes en vacances, tout ça. Alors, vous avez joué à quoi, vous, depuis la dernière fois?
Moi j'ai fini un scénario Wasberg et je dois finir un scénario Over the Edge, là bientôt, en master.
Oh, comme.
Moi j'ai aussi fini un scénario Wasberg,
Ça alors?
c'est l'école de prononciation. Non, j'ai lancé une. On ne peut pas vraiment parler de campagne, mais ouais, Wasberg c'est un jeu qui m'éclate bien en ce moment en tant que MJ. Sinon, en tant que joueur, j'ai complété le premier sens. En tant que, y a pas longtemps là, on a fait les six épreuves, je crois que c'est comme ça s'appelle. Et ma foi, c'était vraiment vraiment sympa. Alors sens,
Après.
oui, peut-être je peux
Oui,
détailler deux secondes.
oui.
C'est donc le jeu de rôle de comment s'appelle-t-il déjà?
Le jeu de Romaric?
Voilà, de
De...
Romaric Briand.
Ah, parce que j'étais pas sûr
Si,
de.
c'est ça. Alors
C'est
c'est
Sens Renaissance.
Sens Renaissance, voilà.
Voilà.
Je précise parce que je me souvenais plus du titre. Donc c'est un comment il le présente comme un jeu de rôle philosophique, je crois.
De philo-fiction,
Ouais, c'est
oui.
ça. Alors en tant que joueur, justement, je peux pas te parler de tous les enjeux et tout parce que en tant que joueur, t'as vraiment qu'un aperçu. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est un jeu sous des, enfin, qui est assez classique. C'est-à-dire qu'il y a le côté jeu à secret dans lequel les joueurs jouent des héros. Donc, en deux mots, le concept, c'est que, vraiment en deux mots, hein, pour faire très rapide, on est dans un univers SF, donc c'est genre 1000 ans après notre ère. Il y a un super méchant qui domine le monde, et les joueurs font partie de la résistance et sont des espèces de héros de la résistance parce que pourquoi ce super méchant contrôle le monde? Parce qu'il a un, je sais plus comment, avec un système de runes ou je sais pas quoi. Il a un truc qui s'appelle l'ombre monde, qui est en fait un reflet parfait du monde réel, dans lequel il peut voir tout ce qui se passe en temps réel. Donc forcément, il peut voir où sont ses adversaires, etc. Le problème, c'est que les personnages, enfin les joueurs incarnent des personnages qui s'appellent les bugs et qui sont en fait les seules personnes de tout l'univers du jeu
Ne
qui
pas
ne se reflètent
apparaître.
pas dans l'ombre monde et qui donc forcément sont le grain de sable dans la machine. Voilà, et le jeu tourne autour de ça, donc il y a bien sûr plein de secrets. Qui sont vraiment les personnages? Que savent-ils? Qui est-il dans l'ombre monde,
Quels sont
etc.
leurs réseaux?
Voilà, exactement. Et c'est assez sympa, je dois dire que le côté jeu à secret, bon, des fois c'est un peu pénible d'avoir comment dire, des PNJ qui te disent oui, je pourrais t'expliquer, mais tu n'es pas encore prêt pour
Non,
comprendre.
ça attendra l'épisode
Voilà, c'est
43.
ça attendra la grande révélation de l'épisode 5. Bon, mais une fois que tu acceptes ce principe-là, ma foi, c'est plutôt sympa. Et à côté de ça, parce que comme c'est l'été, j'ai vraiment beaucoup joué, j'ai fait une partie de Dungeon World. Donc ça, on fera peut-être un retour la prochaine fois, parce que je sais que Dungeon World, c'est ta marotte, donc.
Ah, oui, c'est vrai, je ne peux pas nier.
Et ma foi, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Je crois que j'avais joué à d'autres trucs aussi, mais voilà.
Très bien, Seb.
Eh bien moi, écoute, il s'avère que je joue à Dungeon World avec toi, mais on en parlera la prochaine fois parce que. mais voilà, donc c'est une partie bien agréable qui prouve que des gens qui réfléchissent vastement sur le jeu de rôle peuvent aimer défoncer des portes et tuer des rats géants dans des tunnels.
Oui.
Jouer des persos bêtes.
Avec des cubes gélatineux.
Tout à fait. Et
C'était mon premier.
c'est vrai?
Oui. Ça m'a fait quelque chose.
Si vous voyez, si auditeur, vous lisiez la joie sur le visage de
Il
Colin en
a
ce moment.
un œil complètement pétillant, mais vous vous demandez en vrai ce qu'il a pris, quoi. Mais il y a les 38 degrés de température
Oui,
qui doivent
ça doit
rajouter
aider pas
aussi.
mal, je coule.
Chers auditeurs, si vous entendez des bruits d'eau, c'est nous qu'on dégouline. Donc voilà, j'ai joué un peu à Dungeon World, je mène une campagne Medfan qui prend des proportions de plus en plus gigantesques, notamment avec Cobalt aussi.
Eh oui.
On a un vieux couple en réalité. Et là, quand je vais rentrer à ma maison à Lille, dimanche, je rejoue à Battlestar Galactica, où on a une MJ qui nous fait une adaptation.
En face du micro.
Pardon. Où on a une MJ qui nous fait une adaptation vachement intéressante de l'univers, puisque on joue une campagne de civils coincés sur une planète qui est la colonie de Thoron, où nous sommes sous le joug des Cylons et on essaye de survivre en gérant la faible population de réfugiés qu'on a sous la main.
D'accord.
On s'amuse bien.
Eh bien, quant à moi, j'ai joué à Dungeon World, donc voilà. Et ma foi, c'est fort bon. Sinon, à quoi j'ai joué? J'ai joué à Tremulus par Google Hangout, et c'était vachement sympa aussi, même si je trouve que le jeu a quelques défauts dans les actions qui sont proposées, parce que c'est basé sur le système de l'Apocalypse.
C'est un hack.
Et en fait, il y a certaines actions qui sont pas évidentes en fait, alors que pourtant c'est un Cthulhu motorisé Apocalypse. Et par exemple, pour écouter aux portes, il y a rien vraiment de prévu, tu vois. C'est un peu flottant, et donc évidemment, tu trouves toujours une solution avec ce type de
les actions fourre-tout qui te permettent
qui permettent de résoudre ce genre de choses. Mais c'est pas complètement prévu. Je trouve qu'il y a quelques boulons à serrer en fait pour que ce soit vraiment un très bon jeu.
C'est vrai que c'est dommage parce que bon, du tout, tu risques d'avoir beaucoup d'enquêtes et le fait qu'on joue pas très fort sur la prise d'informations.
Non mais il y a d'autres éléments. D'accord. Il y a d'autres actions, notamment consacrées à la prise d'informations, qui sont parfois des actions spécifiques à certains archétypes de perso, genre le journaliste ou je sais pas quoi. Il y en a qui ont accès à des choses supplémentaires, genre le médecin, il peut soigner et pas les autres, voilà. et puis voilà, ma foi. Tiens, je voulais revenir un petit peu sur un truc, donc sur tous les commentaires qu'il y a eu sur les derniers épisodes. Moi, je lis tout, évidemment. J'ai pas eu l'occasion de censurer de messages, parce que les gens sont plutôt bien élevés, à vrai dire. Et il y a parfois des critiques dures, mais justes. Mais dans ce cas, je réponds. Et des critiques dures, mais que je trouve injustes, et dans ce cas, je ne réponds pas.
Voilà, donc si on vous répond pas, vous savez pourquoi maintenant.
Non, ou des fois, ça n'appelle pas de réponse. Voilà, tout simplement. Si c'est un jugement péremptoire, même si, par exemple, un mec dit « c'est de la merde », je laisserai publier le commentaire, mais j'y répondrai pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse à apporter.
À part « je t'emmerde » éventuellement.
Non, mais moi, je...
Ça apporte rien, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir vos retours, parce que par définition, c'est pas notre métier, donc c'est intéressant de pouvoir avoir vos retours pour savoir ce qui est plus audible et ce qui l'est moins, pour essayer de vrai dans tout mon sens.
Par exemple, par rapport au dernier numéro, on me dit que j'étais très en retrait. C'est vrai, vu que j'ai pas préparé de jeu, ni la dernière fois, ni même cette fois-ci, et que j'étais un peu mou, et là encore plus avec la chaleur... la plupart des podcasts sont en vacances, donc ils n'enregistrent pas de numéro.
Il n'en reste que nous.
Et je me disais, au final, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ce serait pas mieux de recharger les batteries pendant l'été?
Cela dit, je propose aux auditeurs que pour vous mettre en condition, et ce qu'il faudrait pour écouter le podcast, là, c'est vous enfermer dans une petite pièce.
Salle de bain.
Voilà, une salle de bain.
Avec une baignoire remplie d'eau bouillante.
Avec un pull. Et là, vous nous pardonnerez peut-être nos égarements.
Un hammam ou un sauna, je pense que ça serait à peu près plus adapté. Et justement habillé pour le coup, et vous verrez ce que ça donne.
Mais alors sinon, blague à part, tu parlais de vacances, ça veut dire que le numéro apéro va pas le faire?
Si, mais je me suis dit, bon, c'est le numéro apéro, donc ça on va pouvoir, ce sera plus détendu et tout ça. Okay. Il y aura plein de monde.
Parfait alors.
Voilà, donc eh bien voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Bonnes vacances à tous, et puis à la prochaine. Merci Seb d'être passé.
C'était un plaisir.
Et puis à très bientôt. Ciao.
Salut.
Bye bye.
Au revoir.